Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
Ground control to Major Tom.
Bonjour, atteindre les étoiles, décrocher la Lune. Il y a 50 ans, l'homme posait le pied sur la Lune pour la première fois. Aujourd'hui, la NASA veut relancer les missions lunaires. Astronaute, ça fait rêver. Bonjour Simon Rosé.
Bonjour Juliette.
Alors, si on veut devenir astronaute, c'est un long parcours hyper sélectif. L'aboutissement, c'est d'entrer dans l'un des 7 centres opérationnels de l'Agence spatiale européenne, sans doute celui qui fait le plus briller les yeux, le Centre européen des astronautes. Il est à Cologne, en Allemagne, et c'est en partie là que s'entraînent depuis 1990 tous les astronautes européens. Il jouit d'une très belle cote de popularité dans le milieu fermé des agences spatiales, Simon.
Oui, car l'Europe a bien des astronautes, et je dis bien l'Europe et pas la France, l'Allemagne ou l'Italie, car toutes les personnes du vieux continent qui s'envolent pour l'espace, elles le font principalement pour le compte de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et pas pour leurs agences nationales. Par exemple, c'est pour ça qu'on dit que Thomas Pesquet est un astronaute et pas un spationaute, même s'il est français, c'est parce qu'il vole pour l'ESA. Et dans ce cadre-là, il était donc logique d'avoir un endroit pour entraîner tous ces astronautes, et c'est donc l'EAC, le European Astronaut Center, le centre européen des astronautes, créé donc en 1990.
Et ça ressemble à quoi un centre d'entraînement? Vous y êtes allé, vous?
Oui, alors déjà quand on rentre dedans, on est accueilli par une gigantesque maquette de la Station Spatiale Internationale pendue au plafond. Ça donne le ton, car l'ISS, c'est aujourd'hui le seul terrain de jeu pour les astronautes, faute d'autres destinations. Pour l'instant, on n'est pas encore retourné sur la Lune. Au centre, on trouve également de quoi préparer un voyage de 6 mois à bord de la station, un simulateur de Soyouz pour apprendre à rejoindre la station spatiale, une réplique du module européen Columbus, c'est la station de travail des astronautes du vieux continent une fois en orbite, et la sacro-sainte piscine d'entraînement aux sorties extravéhiculaires. Ce n'est pas n'importe quelle piscine d'ailleurs, puisqu'elle est ce qu'on appelle la viscosité neutre, c'est-à-dire qu'elle permet de simuler au mieux les sorties en scaphandre dans l'espace. Toutes ces salles, tous ces instruments, les 7 astronautes qui composent aujourd'hui le corps européen les connaissent par cœur, ils y ont passé leurs premières années d'entraînement.
Car la suite, elle se fait soit aux États-Unis, soit en Russie.
C'est ça. Si on suit le processus dans l'ordre, en fait, ils passent le concours de sélection organisé par l'ESA, quelques élus seulement sur des milliers de candidats. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils vont voler rapidement, car il faut tout d'abord leur attribuer une mission et ça peut prendre des années. En attendant de voler, donc, ils commencent leur entraînement. À l'EAC, on perd pas de temps. Mais en revanche, dès que la mission est attribuée, là, les choses s'accélèrent. Direction cette fois le Centre Spatial Johnson de la NASA à Houston ou la Cité des Étoiles à Moscou. Et c'est dans ces deux endroits que l'entraînement opérationnel débute réellement.
Alors on a parlé des centres d'excellence, on parle de ces excellents qui y sont. C'est qui les astronautes européens en ce moment?
Il y a un corps officiel des astronautes, il y a les 6 de la promotion 2009, alors, il y a l'allemand Alexander Gerst, les italiens Luca Parmitano et Samantha Cristoforetti, le danois Andreas Mogensen, le britannique Tim Peake et donc le français Thomas Pesquet. Ils ont tous déjà volé une fois, le but c'est qu'ils fassent une deuxième mission dans l'espace, c'est le cas pour un d'entre eux, Alexander Gerst qui a volé l'an dernier. L'italien Luca Parmitano va décoller dans quelques jours le 20 juillet et pour Thomas Pesquet, le français, on est fin 2020, début 2021. Les derniers n'ont pas encore de date attribuée.
Merci Simon Rosé. Les étoiles meurtries du ballet de Vienne, une nouvelle affaire ébranle le sport de haut niveau en Autriche après les accusations d'abus sexuels dans le monde du ski. Une autre formation d'élite, une autre fierté nationale est touchée par le scandale. L'Académie de ballet de l'Opéra de Vienne, Céline Béal.
Des coups, des griffures, des pincements pour façonner les corps des ballets aériens de l'Académie de Vienne, l'une des écoles les plus prestigieuses au monde. Le public qui vient admirer le bal de l'opéra ou le concert du Nouvel An à Vienne se doute-t-il des sévices infligés à des adolescents, des enfants parfois? L'affaire éclate au printemps dans l'hebdomadaire viennois Falter, qui révèle dans quelles conditions effroyables les élèves sont formés, avec des violences verbales et physiques et même un cas d'abus sexuel présumé. Une professeure d'origine russe est au centre des accusations. Elle aurait importé à Vienne les méthodes de dressage soviétique et la pédagogie tsariste, explique une ancienne collègue. Après des années de sévices, cette enseignante cauchemardesque a quand même finalement été mise à la porte en janvier. Mais au-delà de ce cas particulier, c'est tout un système délétère que laissent entrevoir les révélations du journal. Une ancienne directrice de l'Académie, Yolanta Seyfried, brise le silence. Les enfants ne sont pas vus comme des êtres humains à part entière, mais comme la matière à partir de laquelle les professeurs vont pouvoir s'accomplir, dit-elle. C'est-à-dire la matière à partir de laquelle ils pourront former leur si belle chorégraphie. Pour cela, ils exigent en particulier des corps uniformes. Et tant pis s'il faut donner des complexes aux jeunes. Ceux-ci sont pesés devant tout le monde, on leur répète qu'ils sont trop gros, une professeure leur recommande une cure seulement à base d'eau et de kiwi. Et cela pour des sportifs de haut niveau. De nombreux élèves sombrent dans la boulimie ou l'anorexie et ne sont pas pris en charge correctement, si l'on en croit les témoignages recueillis par le journal. Des révélations d'autant plus glaçantes que certains de ces enfants sont livrés à eux-mêmes, loin de leur famille, puisque le renom de l'académie attire beaucoup d'élèves étrangers. Ou attirerait beaucoup d'élèves étrangers. On ne sait quelles répercussions l'affaire peut avoir sur la réputation de l'Académie de ballet. La direction se montre en tout cas proactive. Elle a annoncé la mise en place d'un service de médiation et l'arrivée de pédagogues spécialistes de la nutrition et de la médecine du sport.
Le sacre du français Alexandre Kotorov à Moscou, le jeune pianiste, a remporté le prestigieux concours Tchaïkovski organisé tous les 4 ans depuis 1958 en Russie. C'est un véritable tremplin professionnel pour les jeunes musiciens. Pour cette 16e édition, le concours concernait aussi les catégories cuivre et bois. Mais à Moscou, notre correspondant Étienne Bouche a suivi les auditions de piano, la discipline reine du concours.
Dans la grande salle du conservatoire Tchaïkovski de Moscou, les auditions de piano se déroulent dans une atmosphère mêlant excitation et solennité. Comme tous les soirs, la salle est quasiment pleine. Le concours Tchaïkovski passionne un public mélomane bien au-delà des professionnels. 25 jeunes pianistes originaires de différents pays se succèdent sur la plus grande scène du pays. Le russe Andrei Gougnine est l'un des candidats en lice.
Pour un pianiste russe, cette participation est particulièrement importante parce qu'en Russie, je crois qu'on entend parler du concours Tchaïkovski avant même d'apprendre à jouer. C'est pourquoi on ressent une excitation et une émotion particulière quand on entre sur cette scène pour ce concours.
Pendant 10 jours, les meilleurs pianistes de la nouvelle génération se produisent à Moscou. Parmi eux, beaucoup de Russes, mais aussi plusieurs candidats venus d'Asie, une tradition dans la catégorie piano. Dès le premier tour, les prestations sont étourdissantes. Il faut dire que la sélection préalable est drastique. Denis Matsouyev est président du jury. Lauréat du concours en 1998, ce pianiste russe estime que dans une telle compétition, la maîtrise technique ne suffit pas.
Le niveau est très élevé. Les pourparlers qui nous attendent vont être rudes. Je ne parle même pas de la technique, car aucun ne peut vraiment se distinguer par sa virtuosité. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est la personnalité. Nous prêtons attention d'abord aux caractéristiques artistiques des candidats, afin de déceler leur potentiel. Quand Émile Gilels a donné le premier prix à Grigori Sokolov en 1966, Sokolov avait 16 ans. Gilels avait vu juste et fait preuve d'un flair formidable.
Le Benjamin de cette édition 2019 est à peine plus âgé. Alexandre Malofieyev est moscovite, il a 17 ans, les cheveux blonds et le visage diaphane. Il vient de terminer son programme de 50 minutes par un poème symphonique de Liszt, compositeur plébiscité quand il s'agit de faire la démonstration de sa virtuosité.
J'ai commencé à jouer à l'âge de 5 ans, j'ai suivi ma sœur et suis allé dans l'école de musique en face de la maison. Et quand je me suis mis à travailler sur des programmes, j'ai commencé à participer à différents concours. L'idée de participer au concours Tchaïkovski est née lors de la précédente édition, il y a 4 ans. J'ai beaucoup observé. Regarder les retransmissions, assister aux auditions, et ça m'a fait une très forte impression. Voir autant d'interprètes d'un tel niveau, c'est hors du commun, et le désir est venu de lui-même.
Alexandre Malofieyev pourra retenter sa chance dans 4 ans. Dans le public, le jeune russe avait ses adeptes, mais le jury en a décidé autrement. Au terme d'une compétition haletante, c'est un autre Alexandre qui s'est vu décerner le premier prix. Alexandre Kotorov, 22 ans, est le premier Français à remporter le concours Tchaïkovski dans la catégorie piano. Derrière cette réussite, il y a Rena Cherechevskaya, professeure à l'École normale de musique de Paris et pédagogue parmi les plus réputés. À la remise des prix, La tsarine du piano savoure la consécration d'une préparation particulièrement rigoureuse.
Dans un village profond russe, un pêcheur, il m'a demandé « Vous faites quoi ?» Pêcheur qui se lève à 3 heures du matin, d'accord ? J'ai dit « Je suis musicienne ». Il dit « Oula, c'est difficile, j'ai vu comment on transpire ». Je peux vous dire, on a travaillé tous les jours, parfois de 9h30 jusqu'à 21h. Bah voilà, c'est lui qui est venu. Alex,
quelle surprise. Félicitations.
Ah, merci beaucoup.
C'est une récompense qui est folle. Ça vient du public, ça vient du jury, et c'est quelque chose qui me rend fier en fait. Je suis très très fier là, à ce moment-là, d'avoir pu représenter la France dans ce concours. Je me rends pas trop compte encore des conséquences ou de tout ce qui va se passer après. Ça fait un petit peu peur pour être honnête, mais... Voilà, je sais que c'est assez fou en ce moment. Ouais.
Pour l'ensemble des participants, le concours Tchaïkovski offre une exposition médiatique peu courante dans le monde de la musique classique. Les auditions sont retransmises en simultané par la chaîne Medici qui a enregistré cette année une audience record. Plus de 17 millions de spectateurs dans 191 pays.
Bonjour Virginie.
Bonjour Juliette.
Cette semaine avec vous Virginie Lepetit dans Courrier International, on va passer en revue deux femmes, deux futures dirigeantes européennes, Ursula von der Leyen et Christine Lagarde.
Oui, effectivement. Alors, pour Ursula von der Leyen, l'actuelle ministre allemande de la Défense, qui présidera la Commission européenne à partir du 1er novembre, nous avons retenu un article de Die Tageszeitung. Alors, cet article, même s'il rappelle les erreurs passées de la ministre, notamment au ministère de la Défense, dresse aussi le portrait d'une combattante, d'une dirigeante exigeante, pleine d'ambition, d'une femme qui peut écarter les obstacles et mettre en place des collaborateurs énergiques. Des qualités dont elle aura besoin pour relever un défi plus ardu que jamais.
Le journal britannique The Daily Telegraph est quant à lui beaucoup moins enthousiaste vis-à-vis de Christine Lagarde.
Ah oui, c'est peu de le dire. Hein. Le quotidien conservateur étrille la future présidente de la Banque Centrale Européenne. Pour lui, c'est un choix catastrophique pour l'euro. Elle ignore tout de la politique monétaire et n'est pas à la hauteur de la tâche. C'est ce qu'affirme en substance ce journal eurosceptique. Alors pour justifier cette opinion, The Daily Telegraph s'appuie sur les faits d'armes de Christine Lagarde à ses postes précédents. Un des plus gros déficits budgétaires jamais enregistrés lorsqu'elle était ministre des Finances sous la présidence Sarkozy, la pire récession économique, celle de la Grèce lorsqu'elle était à la tête du FMI, une condamnation pour négligence dans la question de l'arbitrage rendue en faveur de Bernard Tapie. On se demande bien quoi d'autre pourrait disqualifier quelqu'un pour le poste de président de la BCE, ironise le journal.
Et pendant ce temps, Virginie, au Royaume-Uni, 160 000 personnes s'apprêtent à désigner le prochain dirigeant du Parti conservateur, majoritaire à la Chambre des communes, et de fait, futur Premier ministre. Qui sont-ils, ces gens qui s'apprêtent donc à désigner l'élu ?
Alors nous avons essayé de le savoir en épluchant la presse britannique, et celle-ci décrit les adhérents du Parti conservateur comme une fraction plus masculine, âgée, aisée et eurosceptique que la moyenne de l'électorat. Les trois quarts sont des hommes, 97% sont blancs, 90% font partie de la classe moyenne, c'est ce que précise le quotidien conservateur The Times. Or, ce sont eux qui voteront pour désigner le chef des Tories le 21 juillet prochain. Et c'est à eux que s'adresse la campagne des deux prétendants au poste, le ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt et son prédécesseur Boris Johnson, qui parcourent tous les deux le pays pour recruter des soutiens. Il n'essaie pas de charmer des millions d'électeurs, mais uniquement ce club nettement plus sélect des adhérents du Parti conservateur, indique l'hebdomadaire The Economist. C'est aussi un groupe largement favorable au divorce avec l'Union européenne, des jusqu'au boutistes, qui n'ont absolument pas peur des conséquences d'un Brexit dur. Bref, conclut l'hebdomadaire de New Statesman, leur choix devrait donc majoritairement se porter sur Boris Johnson, dont la stratégie consiste à quitter l'UE, quoi qu'il arrive, le 31 octobre prochain.
Virginie, on parle économie également dans Courrier International. Cette semaine, sur votre site internet, vous vous êtes intéressée au lithium, l'or blanc du Portugal.
Oui, Le sous-sol de ce pays regorge de lithium, un métal vital pour la production de batteries. Et les projets d'exploitation pullulent au Portugal, déjà principal producteur européen avec une part de marché de 11%. Les dirigeants portugais y voient encore plus de potentiel. L'enjeu a été résumé par le vice-président de la Commission européenne chargé de l'Union de l'énergie, Maros Sefcovic. Le lithium pourrait valoir de l'or pour le Portugal, puisque nous estimons qu'en 2025, le marché européen des batteries vaudra 250 milliards d'euros par an, a-t-il affirmé. Le problème, soulève le chroniqueur André Barata dans le journal Economico, c'est que les promesses de rentabilité éclipsent le potentiel dévastateur de cette industrie. Les gisements sont situés dans des zones protégées, Montalegre notamment, une réserve de biosphère reconnue par l'UNESCO comme un site du patrimoine agricole mondial, mais aussi dans une partie importante de l'unique parc national qui existe au Portugal. Dans un reportage publié par le Diário de Noticias, un retraité local qui travaillait dans une mine se désole. N'a-t-on rien appris du passé ? Une mine, quand elle fonctionne, broie la terre. Quand elle ferme, elle la tue pour de bon.
Virginie Lepetit et ses récits, bien d'autres encore, sont à découvrir cette semaine dans le numéro de Courrier International Nucléaire, le retour de la menace, et sur votre site web. À bientôt, Virginie.
For more than a year, ominous rumors have been privately circulating.
Music. Let me know when you're ready.
That's a good start.
C'est vendredi, on retrouve Vincent Théval pour la musique. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette.
Et cette semaine, on écoute Stéréo Total.
Et oui, retour de cette semaine des vétérans Stéréo Total, le duo franco-allemand qui agite la scène berlinoise depuis maintenant 25 ans. Alors Stéréo Total, c'est Françoise Cactus et Bretzel Göring, deux musiciens dont les pseudonymes fantaisistes en disent long sur une pratique de la musique dont la liberté et l'impertinence doivent beaucoup au mouvement punk. Musicalement, le duo bricole ses chansons avec des moyens rudimentaires. Françoise chante et joue de la batterie, Bretzel est à la guitare ou derrière des claviers bon marché et des jouets pour enfants. Ah, quel cinéma ! C'est le titre de leur 12e album où s'alignent 14 chansons dépassant rarement les 3 minutes, miniature électropop ébouriffée pour humeur sombre et pensée noire.
Cinémascope, un extrait du nouvel album de Stéréo Total. Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Vous nous retrouvez sur le podcast de l'émission, sur le site RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À bientôt.